Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous écoutez Transistor, il est 21h07 et c'est le 54e épisode du journal radiophonique Amplifié qui revient cette année avec une toute nouvelle équipe et aussi des anciens toujours fidèles au poste sans mauvais jeu de mots. Et donc on va commencer avec une actu mixée, égalisée, montée et bien sûr amplifiée. Au programme aujourd'hui, on commencera par le journal avec du national et de l'international. Il y aura des brèves sur Italie 2, Trump, les Kurdes, le Brexit, l'attaque en Allemagne. On verra tout ça après. Il y aura ensuite la revue de presse de Marie, un nouveau édito politique avec Adèle. Il y a toujours la notion pourrie d'Arthur, une nouvelle chronique italienne. Il y aura aussi des sciences, de l'écologie et même du sport. Bref, on vous laisse découvrir tout ça dans un moment. Et on commence tout de suite avec le journal et les brèves.
On commence donc par le journal national avec un peu de la situation à Italie 2, le blocage d'Italie 2, je me semble.
Oui, excusez-moi. Des militants écologistes ont occupé le centre commercial d'Italie 2 dans le 13e arrondissement de Paris, Cocorico, durant un samedi entier pour dénoncer la surconsommation qui serait responsable de la catastrophe écologique actuelle. Après le scandale de Lubrizol, un millier de personnes avaient décidé d'occuper de façon non violente le centre commercial afin d'éveiller les esprits à l'urgence écologiste. Ces mêmes personnes d'Extinction Rébellion ont plus tard occupé la place du Châtelet mardi dans le même esprit. Quelques voix parmi eux commencent à s'élever en raison d'une peur de l'impuissance de ce type de mobilisation et de cette démarche non violente, surtout face aux réponses particulièrement violentes de la police ces derniers jours.
On passe maintenant à un point sur les écologistes avec Rémi.
Effectivement, un vent d'espoir d'union des gauches soufflait à Marseille, Marie, depuis l'annonce d'un rassemblement intitulé « Mouvement sans précédent » entre plusieurs dizaines de collectifs citoyens et de partis, parmi lesquels le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise. Samedi dernier, Europe Écologie Les Verts a mis un coup d'arrêt à ce surprenant Mistral en refusant le principe d'une liste d'union lors d'un vote ayant réuni la masse impressionnante de 74 militants. Sébastien Barbar, j'ai mal noté le nom, c'est une catastrophe. Un homme de 46 ans, tout du moins assistant parlementaire de Michel Rivasi, c'est dire sa célébrité sur l'échiquier politique français, a également été choisi comme tête de liste, annonçant, je cite, rester persuadé qu'une liste écologiste est le meilleur moyen de ramener les déçus de la politique au vote. Cette décision éclaire ce qui sera sans doute la stratégie d'un parti renforcé par les européennes et décidé à s'inspirer d'un modèle allemand, d'un écologisme centriste. L'union fait la force et c'est précisément pourquoi la gauche semble vouée à rester si faible. Municipal toujours avec la visite d'Emmanuel Macron à Lyon, où Gérard Collomb et son ex-dauphin David Kimmelfeld briguaient tous deux l'investiture La République En Marche. Avant que la commission d'investiture ne se prononce, le président de la République aurait tranché aujourd'hui lors d'un déjeuner, le regagnant étant le maire sortant, cumulard multirécidiviste et ex-ministre Gérard Collomb. Tandis que le camp Collomb reste relativement silencieux, les soutiens de David Kimmelfeld dénoncent un fait du prince et des pratiques bien loin du nouveau monde censé être porté par le parti présidentiel.
Un retour pour finir sur l'attentat à la préfecture de police de Paris.
Oui, en effet, 4 fonctionnaires de la police de la préfecture de Paris ont été tués à l'arme blanche le 3 octobre aux alentours de 13h. Emmanuel Macron a appelé mardi midi la nation tout entière à se mobiliser contre l'hydre islamiste, je cite. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a remis la Légion d'honneur à titre posthume à Damien Ernest, Anthony Lancelot, Brice Le Mescam et Aurélia Trifiro. Suite à cet attentat, Christophe Castaner est au cœur de 2 controverses et a été auditionné pour ses propos plucatifs où il assurait d'un côté qu'il n'y avait, je cite, aucun signe qui aurait permis d'éviter l'attaque, puis qu'il était possible de révéler au Sénat des documents confidentiels sur l'assaillant. L'opposition, à droite comme à gauche, demande sa démission.
On passe maintenant à l'international et on commence avec un point sur la situation chaotique, je crois, en Équateur.
Oui, en effet, la situation s'enflamme en Équateur. Faisant suite à une semaine de manifestations et répression policière à Quito, le président Lénine Moreno a décrété mardi dernier un couvre-feu autour des lieux de pouvoir, puis a quitté la capitale avec son gouvernement dans la soirée. À l'origine du mouvement, une mobilisation massive contre la hausse des prix du carburant, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les petits producteurs et les communautés indigènes équatoriennes qui ont porté le mouvement, et se plaignent depuis déjà plusieurs mois de la politique d'austérité orchestrée par un président qui avait pourtant été élu en 2017 sur un programme socialiste, dans la lignée de son prédécesseur Rafael Correa. Le bilan provisoire de ces manifestations est de 120 blessés et un mort.
Un point maintenant sur la situation en Syrie. Le 7 octobre, la décision de Trump avait ébranlé la situation géopolitique de la Syrie. Le président américain avait annoncé le retrait des troupes américaines de la frontière turque, un retrait qui laisserait les Kurdes seuls face à une Turquie qui les considérait comme terroristes. Ce matin même, le président turc Erdogan a annoncé le lancement d'une offensive au nord-est de la Syrie, la zone du pays sous contrôle kurde. Le but, lutter main dans la main avec l'armée syrienne contre, je cite, les terroristes de l'État islamique et du PKK, afin de créer une zone de sécurité à la frontière turque. D'un côté donc, Turquie et armée syrienne, et de l'autre, les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes, ainsi que la milice kurde des unités de protection du peuple soutenues par les Occidentaux. Face à une offensive qui a déjà fait plus de 40 morts et entraîné la fuite de 60 000 civils, les réponses ont très peu tardé. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence et France et Allemagne ont condamné une opération qui pourrait, selon eux, entraîner une résurgence de l'État islamique. Et Trump, lui, a menacé la Turquie de sanctions économiques en cas d'offensive injuste. Le sénateur Lindsey Graham, qui accuse Trump d'avoir abandonné les Kurdes, promet à Ankara des sanctions dévastatrices. On attend toujours les mesures de l'ONU pour connaître les suites de cette opération qui a provoqué pour l'instant un tollé général. Un point maintenant sur le Brexit, un feuilleton qui commence à s'éterniser.
En effet, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Irlande évolueraient-elles vers un possible accord ? C'est ce qu'affirment Boris Johnson et Leo Varadkar, les premiers ministres britanniques et irlandais. L'enjeu serait de garantir le backstop, c'est-à-dire un accord qui éviterait le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, condition sine qua non d'un accord pour les Irlandais. On se demande néanmoins, à 20 jours de la date théorique de mise en place du Brexit, s'il paraît même probable qu'un accord viable soit trouvé d'ici là.
Et pour finir, un point sur la situation aussi en Allemagne. Ce mardi, en Allemagne, un homme de 27 ans a tiré sur une synagogue et sur un restaurant turc à Halle, dans le land de Saxe-Anhalt, faisant 2 morts et 2 blessés graves. Le jeune Allemand, qui avait publié sur Internet un manifeste antisémite, s'est filmé en direct sur Twitch et affirme dans la vidéo que, je cite, « l'Holocauste n'a jamais existé et que les Juifs sont à l'origine de tous les problèmes ». Cet acte odieux, perpétré le jour de Yom Kippour et qualifié d'antisémite par le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, fait écho à des événements récents qui reflètent l'inquiétante montée en puissance de l'extrême droite en Allemagne. En juillet dernier, le préfet Walter Lübcke, qui avait soutenu la politique d'accueil des migrants de Merkel, était assassiné par des membres d'un groupe d'extrême droite. Et aux législatives de septembre dernier, le parti d'extrême droite AfD renforçait sa position de premier parti d'opposition au Parlement. Au total, ce serait plus de 12 700 extrémistes de droite recensés par les autorités allemandes et qualifiés de dangereux. Un chiffre qui sonne comme un défi pour un pays qui fait désormais de la lutte contre l'antisémitisme et l'extrême droite une de ses priorités.
Merci à tous les quatre pour ce journal et maintenant on passe à la revue de presse qui revient avec Marie.